Salut les amis, c'est JBD de Polémiques et la voix off.com pour un flash spécial actualité judiciaire de Bassine Non Merci. Si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez que Julien Leguay, l'un des co-porte-parole de Bassine Non Merci, est depuis des mois pris dans un marathon judiciaire, une accumulation de procédures bâillons. Julien est notamment et injustement accusé d'être un leader du mouvement anti-méga Bassine, alors qu'il n'en est que l'un des co-porte-parole. Et ce jeudi 21 mai 2026, Julien était convoqué à une audience au tribunal de Paris devant la 17e chambre, spécialisée notamment dans les affaires de diffamation. En effet, après la boucherie du 25 mars 2023 de Sainte-Soline, alors que deux manifestants étaient entre la vie et la mort, Julien a qualifié d'assassine la préfète Dubé qui pilotait alors cette répression féroce et sauvage. Préfète qui obéissait bien entendu aux ordres du ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin. On retrouve donc Julien à la sortie de cette énième audience.
Bah déjà ça a été assez long, c'est un gros tribunal et il y a eu plein d'affaires avant et juste des arrangements d'agenda entre avocats quoi. C'était assez lunaire, je me dis qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont pas un Google Doc, Google Agenda. Des trucs assez lunaires aussi parce que c'était un peu le show business qui était là. Dans les noms que j'ai entendus sur les affaires en amont, il y avait Anthony Delon et par rapport à des affaires, par rapport à la déclaration vis-à-vis de son père. Il y avait Anne Hidalgo, enfin voilà, il y avait un côté un peu VIP quoi.
Oui, parce que cette chambre, là, la 17e, là, elle est spécialisée dans la diffamation.
Diffamation et tout ce qui est droit de la presse, ouais. Ouais, ouais, absolument.
On rappelle ton grand crime, hein, tu as osé dire que la préfète Dubé est une préfète assassine. Ouais. C'est celle qui a piloté, hein, on le rappelle, la répression policière de Sainte-Soline. Mais c'est comme ça. Tu l'as dit, au-delà de sa personne, elle n'est qu'un rouage d'une machinerie répressive.
Ouais, mais un rouage, j'ai envie de dire, au même niveau qu'un Papon ou qu'un Adolphe Thiers. Voilà, moi, c'est bien dans cette généalogie-là que je la classe. De ces préfets oppresseurs qui sont capables de donner la charge sur le peuple. Toujours la raison, c'est de protéger le pouvoir et c'est de protéger les puissants. Elle était là, elle a fait le voyage de la Haute-Savoie, la dame de la Haute-Savoie, là. J'ose espérer qu'elle n'était pas si à l'aise que ça dans ses petites baskets, dans les quelques œillades échangées qu'il y a pu y avoir. J'ai cru receler un peu de honte. Ouais, j'espère qu'elle a honte. J'espère que ça l'habite, j'espère que ça la hante. J'espère que ça la hantera jusqu'à la fin de sa vie. Et puis j'espère même que peut-être un jour elle aura la franchise de dire ce qui s'est passé en coulisses. Quelle discussion elle a eu avec Darmanin sur au moment où il faut autoriser l'utilisation des armes durant la manif. C'était quoi les sous-entendus? Parce que ces gens-là sont assez intelligents pour pas dire vas-y, à fond, tir tendu. Ils ont des codes, ils ont d'autres manières. Mais c'est évident qu'il y a eu un moment des échanges entre Darmanin, Dubé, les hauts gradés et les gradés de terrain qui leur ont donné les coups des franches pour avoir ces niveaux de violence et pratiquer les tirs tendus tels qu'ils ont été pratiqués. C'est tout l'enjeu de ce type de procès, quoi. C'est qu'est-ce qui restera dans l'histoire? Parce qu'on le voit, quand on entend la préfète Dubé, elle se réinvente l'histoire. Elle se déculpabilise dans le récit tel qu'elle se le structure. Peut-être qu'elle a besoin de ça pour pouvoir se regarder encore dans la glace. Mais ouais, c'est un combat au long cours. Et comme j'ai dit, et ça a été repris... en toute dernière intervention par l'avocate Dubé, en effet, on ne les lâchera pas jusqu'à la fin, et on ne lâchera pas en fait jusqu'à ce que justice soit rendue. Et puis il y a un moment assez délicieux que tu as plusieurs. Je pense que le fait que mon cher avocat Maître Pierre Hurier me qualifie encore de celui-là, et j'étais juste on était vraiment côte-côte, et il était au-dessus de moi, il faisait celui-là. Et je crois que le moment le plus comique, c'est quand l'avocat de la partie civile a parlé de Madame Leguay. En parlant de Madame Dubé, hein. Alors, peut-être qu'on a été mariés à l'insu de notre plein gré durant cette audience.
Mais c'est pour ça qu'elle tripotait son alliance.
Ah oui, peut-être. Oh là là, comme vous y allez. Tu penses que... Ah ouais. Non, je n'irai pas sur ce terrain-là.
Pour en revenir là, à cette audience, Monsieur Leguay, vous avez été qualifié de diffamateur. Vous avez diffamé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté les dents serrées. Est-ce que c'était la stratégie du silence, comme vous l'aviez peut-être esquissé tout à l'heure? Vous avez fait comment?
En effet, face à cette cour, et puis je pense que c'est pas mal lié au verdict que j'ai subi la semaine dernière.
6 mois de bracelet électronique et 20 000 euros d'amende.
C'est ça. Pour des dégradations commises lors de Sainte-Soline 1 et lors de la grillade partie un mois avant. Bah, peut-être que je me dis que ces déclarations préalables qu'on fait en amont, c'est un peu notre stratégie jusqu'à maintenant, où on y va vraiment avec tout le cœur, on y va vraiment dire pourquoi politiquement on se bat. quels sont nos comportements sur ces temps-là, etc. Finalement, ça donne un peu l'impression de pisser dans un violon. Donc, est-ce qu'on ne fait pas l'économie de ça? Comme l'a dit mon avocat, c'est pas une marque de mépris ou de défiance vis-à-vis... je les connais pas, ces juges-là. Je vais pas les qualifier d'agents couchés devant le gouvernement, etc. C'est pas, je leur prête pas de mauvaises intentions. Mais en tout cas, c'est un droit. Il peut être utile de le faire valoir, d'autant que...
Donc, t'as serré les dents en silence.
Ouais, ouais. J'ai juste décliné mon identité et mes conditions de revenus. C'est important notamment puisque ça doit être pris en compte dans la peine qui serait infligée. Et donc si on doit résumer un petit peu voilà, le score à la fin, c'est que la partie civile demande réparation. Ils n'ont pas formulé le montant qu'ils exigeaient, mais on l'a dans les pièces. Ils réclament 8000 euros. Je ne suis pas sûr que Mme Dubé ait vraiment besoin de ça. Hein, je veux bien lui payer 2-3 séances de psy, hein, mais 8000 euros, peut-être qu'on a le quoi refaire la garde-robe ou j'en sais rien, enfin c'est indécent. C'est indécent, et elle demande également 5000 euros de remboursement de frais d'avocat. Et finalement, le fait qu'il y ait des demandes qui soient aussi fortes, ça vient confirmer ce qu'on théorise de plus en plus. Ça rentre pleinement dans le champ de la procédure Bayon. C'est dans l'espoir que le simple fait qu'on puisse être menacé de telles peines, bah, ça nous décourage de toute action militante, de toute expression politique. Et donc c'est un piège dans lequel il ne faut évidemment pas tomber. Et donc le PROC a appuyé la demande de la partie civile, de Dubé, en demandant ma condamnation, en demandant au juge de considérer quelle serait la bonne somme à m'allouer. Voilà, évidemment.
Quelle bonne somme peut-on allouer à un type qui est au RSA? Tu es insolvable, en gros. Hein.
Ben oui, je suis insolvable. J'ai plus d'activité professionnelle depuis 4 ans à présent. Ben, en fait, même 1 euro symbolique, ça dit la culpabilité, c'est pas une bonne décision. Là, vraiment, c'est ça, c'est l'enjeu de ce procès. C'est la liberté d'expression. Si on avait pu faire un débat sur est-ce que le terme d'assassin était vraiment le bon terme, ben, j'en sais rien, mais en tout cas, ça aurait vraiment permis d'avoir des vraies discussions. Parce que moi, le terme d'assassin, pour moi, ça représente quelqu'un qui est envoyé en service recommandé, quoi. C'est un tueur sur commande. Et ça peut être entendu autrement. Ça peut être entendu simplement quelqu'un qui tue avec l'intentionnalité. Sur la question de l'intentionnalité, il va falloir refouiller les archives, mais après Notre-Dame-des-Landes, il y a bien eu des voix qui se sont déliées dans les rangs des forces de l'ordre, dans les rangs des préfets, etc., qui disaient que sur un coup comme Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement était prêt à assumer 1 à 4 morts. Tu vois ? Et avait les stratégies de communication. Et moi, j'aimerais, tu vois, s'il y avait des vraies investigations, j'aimerais bien avoir les brouillons du service com de la préfecture avant Sainte-Soline. Et je suis à peu près persuadé qu'il y avait un scénar et un communiqué de presse qui était rédigé dans l'optique où il y aurait eu un mort. Tu vois ? Et que je sois très suspicieux vis-à-vis de représentants de l'État et sur leur capacité à tuer des militants écolos, ben désolé mais pas désolé, hein. L'État français l'a déjà fait. Faut pas oublier Vidal Michalon, tué sur une manif dans les années 70 à Crest-Malville par rapport à la lutte antinucléaire. Faut pas oublier le camarade qui a été tué lors de l'affaire du Rainbow Warrior. Et puis il ne faut pas oublier Rémi Fraisse. Et puis il ne faut pas oublier toutes les victimes des violences policières, les Naël, tous les camarades dans les cités, les camarades en Kanaki, qui ont eux aussi à subir des opérations meurtrières, des opérations où l'issue peut être la mort.
C'est presque miraculeux qu'il n'y ait pas eu de mort le 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Pendant des semaines, Serge a été entre la vie et la mort et Mika n'est pas passé loin non plus.
C'est ça l'élément numéro un qui, moi, fait que le... Bon, je trouve pas que le terme soit exagéré. C'est qu'à le jour où je donne ces propos-là, en effet, Mika et Serge sont entre la vie et la mort. L'histoire et la volonté des camarades, bah, le fait qu'on ait un service public hospitalier français qui soit encore performant et qui soit encore accessible à tous et à toutes, toute la volonté de faire de Serge et de Mika et de leurs proches qui les ont accompagnés, qui les aident à se reconstruire et tout, font qu'il n'y a pas eu une issue fatale. Mais c'est certainement pas grâce à la préfète Dubé. C'est peut-être ce qui m'a scandalisé le plus quand elle a commencé à aller sur le laïus du « on a tout fait pour organiser les secours ». Alors que rendez-vous compte, ils nous avaient même pas dit où ils faisaient la manif. Ça c'est bizarre, hein. Ils savent pas où mettre les secours, mais ils savent où mettre les condés.
Bon, bah alors c'est qu'on ne se quitte plus hein, quand même, hein, puisque si je reprends l'agenda, il y avait 3 décembre 2025, mars 2026, aujourd'hui mai 2026. On se revoit la semaine prochaine donc à Poitiers pour le 27.
Absolument, pour le procès de l'organisation de Sainte-Soline 2, qui va pas être une paille ni une mince affaire. Hein. On avait pris assez cher en première instance, Et c'est la même juge qui va nous juger que celle qui m'a mis le bracelet la semaine dernière. Donc on n'y va pas la fleur au fusil, quoi. Par contre, on va avoir de sacrés témoins, puisque sur le plan politique et sur un petit peu justement de ce bras de fer avec le gouvernement, avec Darmanin et compagnie, il y aura Benoît Biteau.
Député de Charente.
De Charente-Maritime et eurodéputé au moment de Sainte-Soline. Il y aura Nicolas Selnik, qui est un des rédacteurs, et là c'est vraiment sur le fond du dossier Bassine et de cette lutte contre l'accaparement de l'eau. Nicolas fait partie des deux journalistes qui ont rédigé ce super bouquin qui s'appelle Les Assoiffeurs, qui vient analyser justement toutes les grandes stratégies d'accaparement de l'eau en France et à l'international. Et puis enfin, on aura l'occasion d'entendre Michel Forst, qui est ce commissaire à l'ONU en charge de la protection et des défenseurs de l'environnement. Bah, j'espère que face à un tel casting et face à de tels poids lourds, la juge de Poitiers va se rendre compte qu'elle a une décision importante à prendre, une décision historique. Et si elle veut rester du bon côté de l'histoire, il faudra que ce soit dans le sens de la relaxe.
Bah écoute, je vais juste parler en mon nom, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront dans ce que je vais te dire. Merci à Bassine Non Merci, et notamment merci à toi qui est l'un des co-porte-parole de Bassine Non Merci, et absolument pas le leader ni le chef, hein, n'est-ce pas? Je crois qu'on a déjà parlé de ça.
Ouais, mais c'est quoi, la pédagogie, c'est l'art de la répétition.
La pédagogie et l'art de la répétition. Merci, parce que dans ces moments-là, je me dis que c'est moi qui pourrais être à ta place, ou n'importe qui d'autre, ou les 30 000 personnes qui étaient à Sainte-Soline, en fait, auraient dû être à ta place dans ce tribunal aujourd'hui. Merci pour ce taf et cet engagement.
Et moi, le remerciement, évidemment, que je le retourne à tous ces camarades qui ont pour certains fait beaucoup de route pour être là aujourd'hui. Je l'adresse également aux avocats qui sont pas des avocats comme les autres, hein. C'est pas l'argent qui les motive à nous soutenir, à nous défendre dans ce type d'affaires. Le remerciement à toutes les équipes, les legal teams qui font un boulot de l'ombre acharné et d'une efficacité remarquable. Puis ben merci aux journalistes qui font que cette sombre histoire de Sainte-Soline tombe pas dans les oubliettes de l'histoire.
Bon bah ben, la semaine prochaine alors. C'était donc Julien Leguet, l'un des co-porte-parole de Bassine Non Merci, à la sortie de l'audience du jeudi 21 mai 2026 au tribunal de Paris. Prochaine étape de cette stratégie étatique d'accumulation de procédures bâillon, c'est à nouveau au tribunal de Poitiers, à midi, le mercredi 27 mai, pour cette fois-ci, enfin aborder la manif de Sainte-Soline 2 de 2023. On vous en reparle très bientôt sur polemixetlavoixoff.com et sur votre radio encore libre préférée, No Basalan, et à très vite.
Toi l'écolo, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Toi l'écolo, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Les flics s'agitent comme Louis de Funès, dès qu'ils connaissent ton nom, ton adresse.
Les flics s'agitent comme Louis de Funès, dès qu'ils connaissent ton nom, ton adresse.
Toi l'étudiante, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Toi l'étudiant, tu l'as bien infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Ton directeur t'a fait des promesses, mais on veut plus de toi au CNRS.
Ton directeur t'a fait des promesses, mais on veut plus de toi au CNRS.
Toi le routard, tu l'as t'es infecté, oh t'as les symptômes mais tu es contaminé.
Toi le routard, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
T'avais ton billet pour Mexico City, tu rêvais du Chiapas et t'as visité Roissy.
T'avais ton billet pour Mexico City, tu rêvais du Chiapas et t'as visité Roissy.
Toi le pépé qui donc te l'a donné, oh c'est du au moins qui t'a contaminé.
Toi le pépé qui peut te l'a donné, oh c'est du au moins qui t'a contaminé.
Ce n'est pas ta barbe mais ton petit-fils qui tague chaque nuit, Jordi nique la police.
Ce n'est pas ta barbe mais ton petit-fils qui tague chaque nuit, Jordi nique la police.
Toi le bébé qui dont te l'a donné, oh sais-tu au moins qui t'a contaminé.
Toi le bébé qui dont te l'a donné, sais-tu au moins qui t'a contaminé.
T'as pas encore l'âge d'enfreindre la loi, mais tes parents t'ont appelé Oussama.
T'as pas encore l'âge d'enfreindre la loi, mais tes parents t'ont appelé Oussama.
Si je l'ai tu l'as, si tu l'as, tu la passeras. Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la donneras.
Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la passeras. Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la donneras.
C'est contagieux, c'est là que le bas blesse. Un jour, chacun aura sa fichesse. C'est contagieux, c'est là que le bas blesse. Un jour, chacun aura sa fichesse.